Des poches sous les yeux, la chronique littéraire d'un livre de poche sur Radio Béton.
Bonjour, bonjour pour ce nouveau Des poches sous les yeux spécial en direct. Cette fois-ci, pas de quart de tour, pas de la boîte à livres, pas de la bibliothèque de Tours. On est à la médiathèque de la Riche, on est sorti de Tours, c'est incroyable parce que nous on est des Tourangeaux, on a du mal à sortir de Tours. On est en direct de la médiathèque de la Riche, on est accueilli par Cécile, bonjour.
Bonjour.
Je vais d'abord vous demander peut-être de dire ce que c'est que cette médiathèque, comment elle fonctionne, est-ce qu'elle fonctionne bien?
Bah, c'est une médiathèque qui fonctionne depuis une quinzaine d'années, qui est très dynamique du point de vue des animations et qui a à cœur d'être un lieu vivant, voilà, pour dire les choses très...
Alors, il va être vivant aujourd'hui, parce que d'abord, parce que Béton est en direct de la médiathèque, ce qui est bien, il y a du public. Et on s'est invité, en fait, dans quelque chose que vous faites tous les mois.
Oui. Tous les mois, en fait, on propose un rendez-vous qui s'appelle le partage de lecture. Donc, c'est un rendez-vous qui a été initié il y a quelques années par les bibliothécaires de la section adulte de la médiathèque. Le principe, c'est très simple. Il s'agit, donc, comme son nom l'indique, de partager entre bibliothécaires et usagers des retours de lecture, qui peuvent être des coups de cœur ou des coups de gueule, mais plus souvent des coups de cœur. Et au fil du temps, donc, le partage de lecture, il s'est ouvert. Donc, il s'est ouvert à d'autres genres. On parle de musique, on parle de cinéma. Il s'est ouvert aussi à l'ensemble de l'équipe, donc les bibliothécaires jeunesse, les discothécaires, les vidéothécaires, de façon à ce que chacun puisse donner à connaître ce qu'il a apprécié. Et puis dernièrement, on s'est dit que ce serait bien aussi d'avoir des invités. Donc aujourd'hui, on est ravis d'accueillir les chroniqueurs de l'émission Des poches sous les yeux, diffusée sur Béton, mais on peut de la même façon accueillir des auteurs, des libraires, des artistes qui viennent jouer le jeu des partages de lecture avec un thème imposé ou pas. Donc aujourd'hui, on est sur un format. Et juste pour terminer cette courte présentation, dire que les partages de lecture, donc c'est tous les mois, en général le dernier samedi du mois, que tout le monde est invité, donc qu'on soit inscrit ou pas à la médiathèque, qu'il n'est pas nécessaire de réserver, il faut juste se présenter à l'heure, et peut-être la seule condition, être curieux et aimer partager ses découvertes. Voilà. Aujourd'hui, c'est la dernière date du partage avant l'été, mais on reprendra à partir du mois de septembre.
Alors, il faut se présenter à l'heure ou en retard, parce que là, on est en direct de médiathèque, on peut encore nous rejoindre, les portes sont ouvertes.
Voilà, il y a encore quelques chaises, donc voilà, les retardataires peuvent discrètement voilà, se joindre à nous.
Alors, le principe, ça va être de chroniquer 8 livres pendant 7 heures, des chroniques faites donc par les bibliothécaires de la médiathèque et des chroniqueurs de Des poches sous les yeux. On va essayer de mixer les points de vue. On va commencer par Marie. Et en fait, on va parler de livres pour enfants, parce que quelque chose qu'on fait pas trop dans Des poches sous les yeux, on chronique pas trop les livres pour enfants, donc pour nous, ça va être une découverte. Donc un livre pour enfants qui s'appelle « Ça s'est passé là » d'Emmanuel Bourdier.
Oui, bonjour. Alors en fait, justement, vous avez parlé de livres pour enfants et je voulais choisir de ne pas introduire comme ça.
Ok, d'accord, ça commence bien.
Non, mais juste...
Faut pas énerver l'animateur, hein, je vous dis tout de suite.
Non, mais je ne suis pas énervée. Simplement, je suis allée sur le site d'Emmanuel Bourdier, qui est donc l'auteur de « Ça s'est passé là », un titre de la collection Petite Poche, qui est une collection d'éditeur Thierry Magnier, et j'ai découvert une anecdote qui m'a beaucoup plu, donc je vous la livre. Un beau jour, un journaliste demanda à Goscinny et Tabary, les créateurs d'Isno Good, pour qui, à la fin, était faite leur BD. Pour les adultes ou pour les enfants ? Tabary lui répondit en substance que lorsqu'un pâtissier faisait un gâteau, il ne se posait pas la question de savoir qui allait le déguster, quelle tranche d'âge allait se régaler avec. Le gâteau était celui qu'il aimerait. Voilà. Considérez donc lorsque j'écris que je fais des gâteaux. Bienvenue dans ma boulangerie et bon appétit.
Donc là, c'est un gâteau qui peut être mangé par les enfants ou par les adultes de la même manière.
Voilà, en fait, la collection, elle s'adresse avant tout à des lecteurs débutants. Et pour ça, l'éditeur a choisi de faire une simple couverture très colorée. Et il n'y a aucune illustration. Pour que les petits lecteurs, comme les grands, puissent créer leurs images. Et voilà.
Et c'est court, en plus.
C'est des petits romans d'une cinquantaine de pages. Mais la typographie est assez... la police est assez... importante, c'est aéré, quelques courts chapitres. Et Et en général, c'est assez piquant. Enfin, c'est, voilà, c'est des petits titres acidulés.
Alors, celui-là parle de quoi ?
Alors, celui-ci raconte, en fait, la destruction d'un bâtiment dans une cité, la cité Marcel Pagnol. Donc, tout le monde est réuni et quelques minutes avant la détonation, chacun va se rappeler un souvenir. Donc, si vous voulez bien, je vais vous en lire un.
Allez-y, oui.
Il est 13h23. Sur le trottoir, la foule regarde le bâtiment E de la cité Marcel Pagnol. Un cœur y bat un peu plus vite que les autres. C'est celui de Sadi. Il se souvient que c'est là qu'il a embrassé Fatoumata pour la première fois, sur la bouche. La minuterie s'était éteinte et il avait trouvé ses lèvres. C'était chaud, doux et humide. Ça s'est passé là, au cœur du bâtiment E de la cité Marcel Pagnol.
Et donc ça, il y a 10 chapitres comme ça dans
Alors,
le livre.
Pas tout à fait 10, mais pratiquement, et chaque fois, donc le chronomètre, l'heure a avancé d'une ou deux minutes, et on va entendre parler les différents habitants, enfants, adultes, différentes générations.
Et à la médiathèque, il y a beaucoup d'enfants qui viennent prendre des livres ?
Alors oui, il y a beaucoup d'enfants. En jeunesse, on accueille des tout-petits, hein, les bébés, ce qu'on appelle les bébés lecteurs, jusqu'au pré-ado, ado, donc jusque vers 13-14 ans. Et on a effectivement des gros lecteurs, alors beaucoup de fans de BD, mais pas seulement.
Et ce que vous faites là, c'est ce que vous faites tous les jours, c'est-à-dire conseiller des livres à ces enfants qui viennent à la médiathèque ?
Alors oui, effectivement, au quotidien, on conseille les enfants et puis aussi les parents qui sont souvent perdus et qui justement se raccrochent à certaines collections qu'ils ont pu connaître quand ils étaient eux-mêmes enfants.
Et donc dans cette collection, il y a beaucoup de livres, vous les avez tous ici ?
Cette collection, on la suit de près. On n'achète pas systématiquement tous les titres. On travaille avec les libraires de Libre Enfant qui nous proposent des offices chaque mois. Donc on peut se faire une idée des romans avant de les acheter.
Des offices, c'est des propositions de Libre
voilà,
Enfant.
Voilà, des nouveautés qu'elles ont reçues et qu'elles nous soumettent.
Merci Marie. On retrouvera Marie tout à l'heure pour quelque chose de complètement différent, une revue. Comme on parlait de maison, ou là en tout cas d'immeuble,
habile transition
vers un autre livre qui s'appelle L'espoir, cette tragédie de Shalom Auslander.
Tout à fait.
Et je t'ai vu te marrer en lisant ce livre alors que ça parle de Shoah, c'est pas bien du tout.
Oui, non, c'est pas bien. Et alors pour le coup, moi je peux le dire en préambule, c'est pas du tout pour les enfants, parce que c'est plutôt trash, on va dire. Alors moi, Shalom Auslander, je connaissais pas du tout, hein. J'ai vraiment découvert avec ce livre, donc je suis allée un petit peu me renseigner sur lui. Donc c'est un jeune auteur, puisqu'il est né en 1970, donc il est très très jeune. Il est né en fait dans une famille de juifs orthodoxes, et il a pas rigolé tous les jours. Et en fait, l'écriture est un peu pour lui un moyen de se libérer de ce passé familial pas forcément très drôle. Alors, il a écrit une autobiographie dont le titre est assez éloquent, qui s'appelle « La lamentation du prépuce », ce qui donne un peu voilà l'état d'esprit de cet auteur. Et ici, donc, c'est un roman, hein, « L'espoir, cette tragédie », mais on voit aussi les résonances autobiographiques par rapport à sa propre famille. Alors, pour ceux qui écoutent des poches sous les yeux régulièrement, moi, ça m'a un peu fait penser à une chronique qui a été faite il n'y a pas longtemps, « Le nazi et le barbier », une chronique faite par Alexis. Donc, « Le nazi et le barbier » de Edgar Ilsenrath. J'espère que je prononce correctement. Donc, ce livre, en fait, effectivement, on rigole. Ça fait deux fois de suite dans un direct que je parle d'un livre où on rigole. Je ne sais pas ce qui m'arrive.
On fait des stats. Ouais.
Comment ?
On fait des stats.
Ouais, dans ce cas,
après. T'as encore du boulot.
Ouais, j'ai de la marge. Alors, déjà, rien que la couverture, voilà, est plutôt drôle. Donc, on a un cerf, comme on peut avoir les têtes de cerf empaillées dans les châteaux médiévaux. Mais sur sa tête, il a une ménara, c'est-à-dire le chandelier juif à sept branches. Alors, le nom de l'auteur, hein, c'est Shalom Auslander. Alors, Shalom, c'est la paix, en hébreu. Je parle hébreu couramment. Et en fait, c'est un peu le thème principal du livre. C'est-à-dire que le héros du livre aimerait trouver la paix parce qu'il a une vie un petit peu compliquée. Donc, il s'appelle Solomon, il a 40 ans. Il a une femme, un fils de 3 ans, Jonas. Et c'est un personnage qui est complètement névrosé, on va dire, obsédé par la mort. Alors il passe sa vie, il a un petit carnet sur lui et il cherche quelle phrase il pourrait prononcer avant de mourir dans une espèce de fantasme, comme ça, comme les grands hommes. Donc il passe sa vie à être obsédé par la mort et à se demander ce qu'il pourrait dire à ce moment-là.
Et en fait, au fur et à mesure que le livre avance, on comprend un peu pourquoi il est névrosé. Et évidemment, c'est sa mère. Hein, c'est, de toute façon, les mères sont responsables de tout, c'est bien connu. Et sa mère, qui est alors pour moi le personnage vraiment le plus génial du livre. C'est un personnage absolument hilarant, une espèce de Sarah Bernard hystérique. Et qui, en fait, ne s'est jamais remise de ne pas avoir été concernée par la Shoah. C'est-à-dire qu'elle est née en 1945 à Brooklyn. Elle a eu une enfance très confortable. Et en fait, elle culpabilise énormément de ça. Donc, elle passe sa vie à faire comme si elle était une survivante des camps. Donc, ça donne des scènes absolument... Alors, c'est assez impolitiquement correct, hein, mais... Donc, alors, elle cache du pain partout dans la maison, parce qu'elle dit qu'un si un jour, ils ont faim, alors ils retrouvent du pain sous le canapé, sous le lit, etc. Et elle se promène en permanence avec un savon, qui serait donc sa grand-mère, et une lampe, hein, qui serait son grand-père. Et elle a élevé son fils là-dedans, donc on comprend pourquoi il est un peu perturbé quand même. Donc quand il lui fait remarquer quand même que sur la lampe il y a marqué « Made in Taiwan », elle lui dit oui, « enfin, ils n'allaient quand même pas marquer « Made in Buchenwald ». Donc voilà. Donc c'est un personnage un petit peu, comment dire, hors norme. Et donc ce personnage, Solomon, qui est son fils, essaie de trouver la paix en achetant une maison, en se disant « voilà, on va pouvoir enfin avoir une vie tranquille ». Sauf que donc il s'installe dans la maison avec sa femme et son fils et qu'au bout de quelques jours il entend du bruit dans le grenier. Donc il monte voir ce qui se passe dans le grenier et dans ce grenier il trouve une vieille femme qui est là et cette vieille femme c'est Anne Frank en fait qui en fait n'est pas morte et qui vit depuis 50 ans de grenier en grenier où elle se cache et où elle essaie d'écrire un livre. Parce qu'en fait, elle dit finalement, les gens, ils ont lu mon journal parce que je suis morte, mais je veux prouver à tout le monde que je suis un vrai écrivain. Et son objectif, c'est d'écrire un livre qui se vendrait à plus de 32 millions d'exemplaires, puisque c'est le nombre de gens qui ont lu son journal. Et donc voilà, donc elle vit dans ce grenier, et lui, il se retrouve à dire, voilà, j'espérais trouver un endroit tranquille, et en fait, j'ai Anne Frank dans mon grenier, donc c'est pas évident à gérer. Et en plus, donc elle joue sur la culpabilité en disant « Non mais vous êtes juif, vous allez quand même pas virer Anne Frank d'un grenier, quoi, ça se fait pas. » Donc il se retrouve comme ça dans un cas de conscience complètement délirant, et ce livre est absolument délirant. Et c'est vrai que c'est d'une subtilité sans nom, parce que c'est quand même un sujet délicat, on va dire, et il s'attaque quand même à une espèce voilà, de figure intouchable qui est Anne Frank. Alors apparemment, d'ailleurs, il y a des gens... Ça a un peu fait grincer dedans. Non, ça a pas fait rire tout le monde. Mais honnêtement, c'est d'une drôlerie, c'est décapant, c'est d'une finesse. Enfin, c'est voilà, on retrouve un peu l'esprit Woody Allen, mais aussi un peu Kafka. Enfin, complètement absurde. Et c'est juste génial, quoi.
Et donc, tu peux redire le titre et la collection.
Alors, c'est L'espoir, cette tragédie de Shalom Auslander, et c'est chez 10-18.
Merci Mélanie. On va faire une première pause musicale pour manger des gâteaux et boire du jus de fruits. Je pense que ça. Enfin, en tout cas, il y a d'autres émissions. Non, c'est pas du débat. Ah mince. Mais c'est du. Non, du débat, c'est du vin. Donc, donc là, ça sera du jus de fruits. Première pause musicale et on reviendra pour parler de d'autres bouquins et parler de tout quitter. Comment on peut tout quitter dans sa vie.
J'ai mis des mots sur un cahier, j'ai mis des mots que j'ai triés, j'espérais bien me faire griller, j'ai mis des mots que j'ai criés, j'ai mis des mots dans vos oreilles ou des émotions séparées, dans vos théâtres et vos enceintes, j'ai mis des mots comme une empreinte, j'ai mis des mots un peu partout, redistribués au coup par coup, je sais même plus où je les ai mis, j'ai mis des mots, j'ai mis des mots, mais jamais trop, dans un métro, dans un micro, j'ai mis des mots, j'ai eu les crocs, des mots nouveaux, des mots rétro, j'ai mis des mots pour compenser, j'ai pas le destin compensé, mais en passant sur le passé, on peut tracer sans effacer, j'ai mis des mots, j'ai pas médit, j'ai mis des dos, j'ai mis des mots entiers, pas des demi, j'ai mis des mots de Saint-Denis, j'ai mis des mots que j'ai couvés, j'ai tenté de les faire grouver sans entraver, rien à prouver, sans en baver, tout à trouver, les mots vont vite, faut qu'on s'accroche. J'ai pris le tempo à l'accroche, c'est pas pour me remplir les poches, car tous ces mots c'est pour mes proches. Et quand la musique accompagne, les mots pétillent comme du champagne, et le meilleur ne le nie pas, c'est sur un air d'harmonica. première fois en 2003, j'ai oublié les médisants. J'ai mis des mots, c'est médisant. J'ai mis des mots, j'ai des raisons. Coupable de combinaisons et je crée sans comparaison des horizons à chaque saison. Dans plein de pays, j'ai mis des mots. Berlin, Québec ou Bamako. J'ai même trouvé des mots en route. J'ai mis des mots jusqu'à Beyrouth. J'ai mis des mots dans tous les sens, à l'envers, à l'effervescence. Des mots sympas ou en colère, des mots bien droits ou en galère. J'ai mis des mots, c'est dérisoire. Parfois tranchant, c'est dérasoir. Mais bien placé, c'est opportun. J'ai mis des mots, c'est important. J'ai trouvé de l'inspiration pour inspirer mes directions. Pour continuer sans crispation, je reprends ma respiration. Ça fait des rencontres, je me rends compte, je suis pas contre. J'ai mis des mots à l'infini, j'ai pas failli, c'est pas fini. J'ai mis des mots, j'aime des gens, j'ai mis des vœux, jamais urgent. J'ai mis de moi, j'ai mis de vous, des émois de nos rendez-vous. Et quand la musique accompagne, les mots pétillent comme du champagne. Et le meilleur, ne le nie pas, c'est sur un air d'harmonica.
Retour en direct de la médiathèque de La Riche pour ce spécial des poches sous les yeux avec des chroniqueurs des poches sous les yeux et des chroniqueurs médiathèque. C'est pas un match de foot, hein, y a pas de... encore qu'il y a du public qui peut-être va noter à la fin, on sait pas. tout de suite on va parler de deux bouquins où les personnages principaux quittent tout. Jimmy me regarde pas du tout, il quitte pas tout, mais ton instituteur là, il quitte quand même sa vie
danoise, ouais. Voilà. Parce qu'en fait, donc ça se passe au Danemark, hein. Enfin non, pas tout à fait. Lui, il est danois, il instite.
C'est quel livre ?
Alors oui, ce serait peut-être bien parce que en fait, je me suis pas trompé de jour. Hein.
Non, voilà, c'est bon, c'est ça, ouais.
Donc c'est un bouquin de Flemming Jensen. Je pense qu'on dit Jensen. Hein. Ça s'écrit J-E-N-S-E-N. Et le titre du livre, c'est Imaka avec un Q, parce que c'est un mot inuit. Et donc Flemming Jensen, enfin il s'appelle Martin dans le bouquin, est instit, et donc il y a des instits qui sont détachés pour aller faire la classe au Groenland, qui était territoire danois pendant très longtemps, et donc pour lequel ils étaient censés faire la classe, voilà.
Et donc il postule pour partir.
Il postule, il en a un petit peu marre et tout. Il a envie d'essayer, quoi. Voilà. Donc il y va en se disant on va faire la classe à des Inuits. Il part plein de bonnes intentions en se disant peut-être falloir que j'apprenne un peu la langue pour pouvoir communiquer, etc. Et un peu surpris, il se retrouve face à son inspecteur d'académie, on va dire, hein, pour faire la transition, qui lui dit non, c'est pas un séjour linguistique. Hein, tu es là pour apprendre le danois au groenlandais et pas pour apprendre le groenlandais. Voilà, donc tu pars avec le bouquin que j'ai fait, hein, d'enseignement, et vas-y. Bon, un peu déçu sur la manière dont se passent les choses, mais comme il est un petit peu le seul à postuler, finalement, il a quand même le poste. Et donc il part, il se retrouve avec un bouquin qui est un petit peu inadapté, parce qu'on parle, par exemple, un truc un petit peu type abécédaire, avec des images et puis des mots danois à accrocher à ces images-là. Par exemple, il y a des forêts de bouleaux, et des forêts de bouleaux au Groenland, il y en a pas. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça qui sont un petit peu incohérents. Et donc, il se retrouve sur ce comptoir groenlandais, une toute petite base, un tout petit village, où en fait, il y a trois personnes qui parlent le danois. Il y a le pasteur, Pavia, qui est censé lui filer un coup de main sur la classe. Bon, en fait, il est plein de bonne volonté, mais enfin... Il a un petit peu un penchant un peu sur le vin de messe, voilà. Donc il est pas super fiable, voilà. Et un Inuit qui lui parle le danois, qui l'aide un petit peu dans sa vie quotidienne. Ce qui est intéressant, ce bouquin, en fait, c'est toute la vie de cette communauté d'Inuit qui se trouve un petit peu confrontée à des grands bouleversements. Puisque le Danemark est très présent d'un point de vue commercial, il y a aussi des champs de pétrole avec des ouvriers qui sont employés parce que ça fait partie des textes de loi, etc. Voilà, quoi. Mais c'est surtout des modes de fonctionnement, de vie qui sont pas du tout les mêmes et qui vont à l'encontre les uns des autres. Et lui, en fait, se retrouve un petit peu l'instrument aussi de l'acculturation de ces Inuits qui sont en place depuis longtemps.
Et ça va marcher ?
Alors, ça, le propos n'est pas là, en fait. Ce qui est marrant, c'est il se retrouve dans ce comptoir et il faut qu'il soit adapté au mode de vie local. Donc, il est obligé. Il n'a pas le choix. Hein. Il est obligé d'avoir un traîneau, d'avoir des chiens, d'avoir un bateau, d'avoir un fusil, d'avoir tout ce qu'il faut, un kayak, enfin un bateau, tout ce qu'il faut, tout matériel de pêche, tout ce qu'il faut pour survivre. En fait, c'est ça, c'est de la survie. Hein, parce que c'est quand même un milieu qui est quand même très, très hostile, on va dire. Et si on n'est pas équipé, si on n'est pas préparé, ça se passe mal. Et donc lui, en bon danois, bah, il va s'y mettre, mais il va faire toutes les erreurs possibles que l'étranger lambda va faire. Donc entre autres, avec son traîneau, bah, il fait tout ce que... Et les Groenlandais sont morts de rire. Il les surveille un petit peu quand même, pour pas que ce soit trop dangereux. Mais, donc c'est ça qui est assez drôle, quoi. C'est l'interface qui se passe entre la culture danoise, enfin occidentale, et la culture groenlandaise. Par exemple, il y a le Danemark avait organisé un tour de chant de chanteurs lyriques. Donc, il y a un mec qui débarque, qui vient faire un tour de chant lyrique au milieu des Inuits. Alors, bon, il trouve ça sympa, tout. C'est une fête, tout. Bon, alors, il fait son tour de chant, machin. Et puis après, il dit, bah, on fait une fête. Donc, ils font une fête. Et puis, alors, vas-y, c'est parti. Ça chante, ça danse, ça sort les tambours.
Ça boit.
Ça boit un peu, parce que forcément, les Danois ont amené un peu d'alcool. Hein, la bière, entre autres, ça fait partie de la boisson de base, mais d'autres choses aussi. Et les Groenlandais sont pas, ne déclinent pas, hein, forcément. Ça fait partie aussi des problèmes, l'alcool... Donc voilà quoi, plein de choses comme ça qui sont assez drôles finalement. Et c'est en ça que ce bouquin est intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que Flemming Jensen est un stit. Il a fait la coopération comme ça au Groenland. Donc ça sent le vécu quoi. Il y a sûrement des trucs qui sont un petit peu romancés, qui ont été un petit peu gonflés, etc. Mais on sent qu'il y a plein de petits trucs qu'il a vécu, qu'il a vu et qu'il a ressenti. Dans sa chair. Ouais.
Merci Jimmy. Alors c'est publié où ?
Alors là j'ai l'édition originale qui est publiée chez Gaïa, hein, qui sort pas mal de choses sur entre autres les pays nordiques. Hein. Mais c'est édité en poche aussi. Alors là je l'ai pas le poche parce que comme j'avais trouvé ça super bien, j'avais dit que c'était bien et donc je l'ai prêté et là il est en Bretagne ce bouquin-là. Mais c'est sorti en poche, mais je sais plus à quel. Chez Babel, oui, t'as raison, ouais, c'est chez Babel, je me rappelle le visuel, c'est Babel. Ouais.
Et c'est aussi chroniqué sur le site de Dépêche sous les yeux.
Oui, bah, il suffit de se connecter.
et le livre dont on va parler maintenant avec Odile a aussi été chroniqué sur Dépêche sous les yeux. Si ? Ah, d'accord. Bon. Et donc c'est aussi quelqu'un qui quitte sa vie actuelle pour aller, cette fois-ci pas partir dans le Groenland, mais dans des quartiers plus chics.
Alors c'est quelqu'un qui part, un petit peu comme moi, là je suis déjà partie en vacances, et j'ai mis mes lunettes de soleil parce que le thème c'était de trouver le livre que vous alliez mettre dans votre valise puisqu'on est à la dernière réunion de partage de lecture à la médiathèque de la Riche. Donc les auditeurs de béton ne pourront pas le voir mais regardez-moi, j'ai mis des lunettes blanches de soleil exactement comme sur la couverture du livre. On a le portrait d'une femme avec des lunettes blanches de soleil.
C'est magnifique.
Et quand on voit ça, on se dit, oh non, encore un énième livre de chick lit, la fameuse littérature pour les nanas, le genre de bouquin qu'on lit et qu'on oublie aussitôt. Eh ben, pas du tout, forcément. Si je vous parle de Bernadette a disparu de Maria Semple chez 10-18, c'est parce que ce livre est absolument incontournable. Alors, qui est Bernadette? C'est une mère de famille qui, comme l'indique le titre, a disparu. Et pourquoi elle a disparu, ou plutôt à quel moment elle a disparu? Elle a disparu au moment où, justement, elle devait partir en voyage en Antarctique. C'est pas une destination très courante. Et pourquoi est-ce qu'elle devait partir en Antarctique? C'était le cadeau qu'elle avait promis à sa fille. Bi, excellentissime élève, avait demandé à ses parents, comme remerciement pour ses bons résultats scolaires, de partir en Antarctique en voyage familial avec son papa et sa maman. Et alors, c'était pas un voyage anodin, déjà la destination, mais surtout le fait qu'elle voulait partir en famille avec son père. Son père qui, tout le roman se passe à Seattle, la ville de Microsoft. Donc son père qui n'est jamais à la maison parce que ingénieur, informaticien, il est en train d'essayer de mettre sur point des robots télécommandés. Donc il est absent de la maison. Donc partir en voyage avec son père, c'était important. Pourquoi c'était aussi important de partir avec sa mère Bernadette? C'est parce que Bernadette a des petits problèmes. En particulier, elle est agoraphobe. Elle ne sort plus jamais de chez elle, sauf pour amener sa fille à l'école. Et quand elle l'amène à l'école, c'est en voiture. Pour elle, il est hors de question de rencontrer du monde, de rencontrer les autres mères de famille, d'échanger avec ses femmes lui semble impossible. Donc, elle décide vraiment de vivre comme une recluse, à tel point que, écoutez bien, elle a recours à un assistant pour gérer tous les petites courses à faire dans sa vie, pour aller acheter du pain, pour aller à la pharmacie, pour prendre des rendez-vous. Elle a un assistant virtuel qu'elle a trouvé sur Internet, qui s'appelle, je ne sais plus, Joomla, et qui vient d'Inde. Donc, quand elle veut du dafalgan, elle appelle son assistant sur Internet via l'Inde, et c'est lui qui va commander le dafalgan à faire livrer chez Bernadette. Bon, c'est pour vous dire que vraiment elle a des gros gros problèmes. Et donc elle ne veut pas se fondre dans le moule de cette banlieue super aisée dont tous les maris travaillent chez Microsoft et toutes les femmes sont des desperate housewives qui, bien sûr, s'occupent des voyages scolaires, ont des œuvres caritatives et veulent absolument que tout le monde se fonde dans le moule.
C'est
et...
les prébendes, quoi. Non. Excusez-moi.
Ce ne sont pas les prébendes du tout. Nous sommes donc dans la banlieue de Seattle.
Excusez-moi.
Et donc, elle veut pas se fondre dans le moule. Elle s'appelle pas Odile, mais Bernadette. Et tu me perturbes. Ah oui, alors... Et donc, toutes ces femmes qu'elle déteste, elle les appelle les bestioles, pour vous montrer à quel point elle a vraiment pas envie du tout de leur ressembler.
Et puis, qu'est-ce qu'elle fait, alors?
Et puis, qu'est-ce qu'elle fait? Non, c'est plutôt Bi, sa fille, donc elle a disparu. Ça, je vous l'ai dit, hein, elle disparaît au moment de partir en voyage. Et donc, tout le livre va être une enquête. On va essayer de trouver des documents pour savoir où est Bernadette, quels sont les achats qu'elle a fait, qui elle a vu, essayer de trouver l'endroit où elle peut être. Donc, c'est une enquête, parce que Bernadette a disparu, c'est une enquête policière. On essaie de trouver le maximum d'informations sur cette femme. C'est aussi un roman d'aventure, parce que le voyage en Antarctique a vraiment lieu, mais sans Bernadette, juste Bi et son papa. Donc, forcément, il y a des paysages fantastiques, des expériences extraordinaires parce que l'Antarctique se prête vraiment à des découvertes. Et puis, on peut dire aussi qu'il y a une critique de la société américaine parce que la description de ces femmes, de ces desperate housewives et puis de ces hommes entièrement dévoués à leur métier, c'est vraiment une satire de la société qui est très très bien faite. Donc rien que pour ces thèmes-là, ça vaut le coup de lire « Bernadette a disparu ». Mais ce n'est pas tout. Parce qu'autrement, ce serait trop faible. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est la manière dont est construit le roman, puisque comme c'est une enquête, en fait, il n'y a pas de narration habituelle qui passe par des personnages qui vont nous raconter qui est Bernadette ou quelle est leur vision de Bernadette. Il y en a quelques-unes, mais c'est juste entre eux des documents qui sont des documents, j'ai envie de dire, de la littérature moderne, c'est-à-dire qu'on va étudier les mails de Bernadette, les textos de Bernadette, ses factures, les rapports de son psy, et puis on apprend que Bernadette, là, qui vit dans une maison complètement délabrée, qui ne veut pas faire le moindre coup de peinture, elle vit dans une maison où même le jardin est envahi par les ronces, et tellement que les ronces rentrent dans la maison, on n'arrive plus à fermer les fenêtres, il y a des fuites dans la maison, alors que partout dans son voisinage, tout est propre, avec des glycines qui pendent sur la galerie. Et on apprend que Bernadette, dans une vie précédente, avait gagné un prix d'architecture. Elle avait même gagné une bourse prestigieuse parce que c'était une architecte de talent. Alors, comment d'un seul coup elle peut vivre dans une maison délabrée? Donc, tout ça, on le découvre et on voit qu'elle est pleine de contradictions. Et donc, cette enquête se fait par l'étude de documents inhabituels. Et c'est ça qui fait tout le roman, en fait. Ce sont tous ces documents qui sont étudiés avec, de temps en temps, des petites parties narratives habituelles avec les points de vue des personnages. Donc, cette narration éclatée, moi, on ne s'ennuie pas. Ça donne un dynamisme absolu. C'est vraiment une lecture qu'on a du mal à quitter.
Et en conclusion,
c'est très étonnant comme structure. Et non, c'est pas la seule conclusion. Non, c'est pas parce que donc cette manière de gérer les documents amène un ressort comique incroyable. On n'arrête pas de rire parce que donc il faut imaginer que Bernadette, c'est une espèce de Susan dans Desperate Housewives, c'est-à-dire que elle agit n'importe comment, là elle fait toujours des actions qu'on n'attend pas et qui sont vraiment prise par son entourage comme des actions de folie. D'ailleurs, à un moment, elle doit être internée dans un hôpital psychiatrique et c'est à ce moment-là qu'elle disparaît vraiment. Et c'est excessivement drôle. Et pourquoi ? Parce que Maria Semple, l'auteur, en fait, a travaillé pendant des années pour la télé américaine pour des séries comme Arrested Development. Donc, le sens du timing, des idées qui fusent. Il y a des descriptions qui sont d'une originalité folle. Franchement, je n'avais jamais rien lu comme ça. C'est très, très rythmé et c'est drôle.
Et donc, ça s'appelle ?
Ça s'appelle Bernadette a disparu chez 10-18 par Maria Semple. Et alors, on a glissé dans sa valise absolument.
On va le faire. Et on va avoir une nouvelle pause musicale après s'être trompé en programmant Grand Corps Malade juste avant. Là, tu as programmé.
Alors, encore quelqu'un de formidable qui fait une narration éclatée, tout comme dans ce livre, parce que on va écouter Brandt Rhapsody de Benjamin Biolay, où justement, il s'agit des post-it d'un homme et d'une femme qui se parlent et qui se répondent, et quand on voit les années qui passent et le couple qui se délite, j'aime beaucoup.
Et juste après, on revient à la médiathèque de la Riche pour parler d'animaux, cette fois-ci, avec Véronique et Barbouille.
Faut qu'on se revoie. Tu sais, depuis mardi, j'ai beaucoup pensé à toi. Je suis joignable au 06-06-06-06 le soir, chez moi.
J'ai passé une nuit délicieuse, même si j'ai un peu la migraine. Tu es belle quand t'es odieuse. Je te dis à dans une semaine.
Je rêve de ton corps, je rêve de ta bouche. Je te veux près de moi, je veux que tu me touches. Je rêve de ta peau et de tes mains. Je ne pense qu'à toi, je bosse plus, je fous rien.
Mon amour, tu dormais si bien que j'ai pas osé te réveiller. Je travaille jusqu'à 7h20, si tu veux après on peut s'appeler. Je sais pas ce que tu fais ce soir, moi j'ai rien de prévu. Si t'as du travail, je te dis à plus tard, et j'embrasse ton cul.
Je suis à toi, je te veux, je pense à nous. Tu es mon âme, tu es mon idéal. Je te désire tout le temps, partout. Tu es mon grand projet, je te suivrai n'importe où.
Parce que je t'aime. Parce que tu me rends heureux. Parce que des fleurs dans une cuisine, c'est joli. Je t'embrasse encore, encore, voilà aussi.
Mon amour, demain matin, rejoins-moi à l'aéroport, Orly, Terminal 2, 9h30. Ne pose pas de questions, prends juste ton passeport. Je t'aime, bonne nuit.
Chérie, y a des trucs à manger dans le frigo. Je vais rentrer tard, sans doute, après le dernier métro. Tu vas pouvoir enfin te faire une soirée tranquille. Je t'ai apostrophe et là, y a un cœur dessiné au stylo bille.
Je suis enceinte. Ta mère a téléphoné tout à l'heure. Je crois qu'elle n'a pas encore osé prévenir ta sœur. Ton père a refait une attaque cette nuit. Je t'aime, appelle-moi. Je pense à toi, je pense à lui.
Hier soir, j'ai oublié de te parler d'un truc important. Est-ce que tu peux m'appeler ? Dès que tu te réveilles à n'importe quel moment. Ouvrez la parenthèse, important, mais pas grave. Fermez la parenthèse, je t'embrasse.
Mon amour, ne m'attends pas ce soir. J'ai pas mal de boulot et je risque de rentrer tard. Je crois qu'il doit rester une demi-pizza quelque part. Mais vérifie la date sur la boîte.
N'oublie pas qu'on dîne chez ma sœur. Si tu peux t'occuper du vin, tu seras au cœur. Car je risque d'être crack. Un peu plus loin, je te redonne l'adresse et les codes. 59 boulevard Ménilmontant, code AV1980.
La voisine a laissé un mot sur le palier. Le chat a gueulé toute la nuit dans l'escalier. S'il te plaît, en sortant, tu descendras la poubelle et pense à rappeler ta mère qui me harcèle.
Le mec du Cap passe entre 7h15 et 9h15. Tâche de te réveiller. En plus gros, d'une langue différente. Un truc qui n'a aucun rapport. Style, numéro de passeport.
À payer EDF, Orange, abonnement canal, plus le cadeau commun pour mon frère le week-end prochain. Je trouve plus le chéquier, c'est toi qui l'as, non? Si oui, mets-le en évidence dans le salon.
La réunion est à 19h30, précise à l'école. Le précise est souligné. F a encore appelé, il m'a parlé d'un chalet, je n'ai pas compris. Enfin, tu dois mieux savoir que moi. A plus. Le plus est une croix.
Casser 3 œufs, ajouter 1 demi-litre de lait, incorporer 100 g de farine progressivement. Ajouter d'un seul coup 50 g de matière grasse, tu mets moitié beurre, moitié margarine et tu mélanges.
Code réservation QWXXCJ, mot de passe Casablanca, départ Orly 9h47, retour 23 à 7h15, arrivée Paris 11h03, Charles de Gaulle, terminal 3.
Une baguette, crevettes, 3 avocats, sopalin, tampons normaux, produits vaisselle, lait demi-crémé bio, 6 œufs bio, 7 poubelles, 50 litres.
D'une écriture différente sur des papiers en tête, FXOR 75 LP, j'ai vu 3 fois par jour. Après Zolam, 0,50 mg, 6 prises par jour maximum. Puis une signature informe, suivie d'un caducé.
Je te rappelle que tu as un fils qui va à l'école tous les matins et qui aimerait bien prendre le petit déjeuner avec son père de temps en temps. Salut.
La visite est à 16h, il y a encore plein de trucs à toi dans le bureau du fond. Tu veux sans doute le récupérer. Appelle-moi, mon nouveau numéro 06 62 73 49 63.
C'est Des Poches sous les yeux en direct de la médiathèque de La Riche et on va parler animaux avec Barbouille. On va parler ours. Qu'est-ce qu'il prend de vouloir ours. Chroniquer un livre sur les ours?
Bah c'est un peu comme Odile qui avait les mêmes lunettes que sur la pochette. Bah, moi c'est avec la couverture, je veux dire.
Ah, c'est vrai, ouais, tu lui ressembles.
Ça ressemble un peu quand même. Bon, voilà.
Une histoire des ours.
Alors, une histoire de l'ours.
De l'ours.
De l'ours, même. De Michel Pastoureau. Donc, alors, il ne s'agit pas d'un roman, il s'agit vraiment d'un livre d'histoire. Puisque Michel Pastoureau est historien. Il est historien spécialiste du Moyen-Âge. Il a commencé donc sa carrière en faisant une thèse sur l'héraldique, donc qui est la connaissance des blasons des différents pays.
Parle-moi
des,
encore, Barbouille.
Voilà, des familles nobles et tout ça. Donc, donc à l'époque, ça avait déjà l'air d'être d'un thème d'arrière-garde, ouais. Mais en fait, il se sert de ce thème-là pour l'approfondir et donc étudier l'histoire des couleurs, des formes et des animaux qu'on retrouve sur ces blasons. Voilà, donc il a sorti toute une série de livres donc sur l'histoire du bleu, l'histoire du vert, l'histoire du noir et certains animaux, voilà, donc dont l'ours. Voilà.
Et donc là, il décide de parler des ours.
Donc là, il décide de parler des ours ou de l'ours d'une manière bon, à la fois animale et symbolique. Donc il commence en fait dès la préhistoire, donc où l'ours donc a été un habitant des mêmes lieux que les hommes préhistoriques, puisqu'il habitait dans les cavernes. Et donc il y a même des préhistoriens qui ont découvert que parfois l'ours avait précédé l'homme, mais aussi il l'avait suivi. Donc il y avait des cavernes qui avaient été désertées par les hommes, qui avaient été reprises par les ours. Donc par contre, on n'est pas très sûr qu'il y ait déjà eu un culte des ours à cette époque-là, puisque on retrouve très peu d'ours dans les peintures rupestres.
Merci. Par contre, il les tuait déjà, non?
Oui, il les tuait déjà, mais bon. Voilà, bon.
On s'en fout alors.
Ouais, c'était pas le... Il n'en parle pas.
D'accord.
Ensuite, dans l'Antiquité, donc on a Artémis, qui est donc la déesse grecque de la chasse. Donc il y a une relation avec des ours.
Une relation.
Non, une relation presque familiale. Quoi.
D'accord.
Et puis il en vient ensuite donc au peuple germanique qui eux donc vénèrent l'ours comme un animal tutélaire Et donc, je vous ai pas dit, mais le sous-titre du bouquin, c'est « L'histoire d'un roi déchu ». Donc ça raconte, en fait, au fil de l'histoire, comment l'ours qui a été le premier roi des animaux, en fait, a été destitué en faveur du lion. Donc je vais vous dire ça plus tard. Donc puisque au temps des peuples germaniques, donc l'ours était vraiment l'animal principal, puisque c'était l'animal le plus puissant que ces peuples-là connaissaient. Donc et puis le plus puissant, le plus dangereux. Donc on retrouve ça notamment au niveau des prénoms et puis des lieux. Donc il y a deux racines qui permettent de retrouver ça. C'est la racine bear, donc comme on a le mot bear en allemand ou bear en anglais qui veut dire l'ours. On le retrouve dans les prénoms Bertrand, Bernard, voilà, uh-huh. etc. Bertrand qui veut dire fort comme un ours. Voilà. Et oui. Et il y a une deuxième racine en art, donc qu'on retrouve chez Artemis, uh-huh. justement, et qu'on retrouve aussi chez Arthur. Donc Arthur, dans les toutes premières légendes, en fait, était le fils d'un ours.
C'est dingue, hein.
Odile, ouais, on apprend plein de choses avec ce bouquin, mais c'est fou. Voilà. Et donc arrive le christianisme, et là ça va plus du tout, puisque en fait, voilà, Michel Passereau le résume très bien. Je vais vous lire un extrait du chapitre, le début du chapitre qui commence à parler de ça. Donc, roi des animaux, présent sur tous les terroirs, redoutable et redouté, attribut des chefs et des guerriers, symbole de sauvagerie et de sexualité exacerbée, d'en parler, cousin ou ancêtre supposé de l'homme, objet de vénération et de cérémonies païennes dans toute l'Europe du Nord, amateur de jeunes filles et de jeunes femmes avec qui il passait pour s'accoupler, l'ours ne pouvait que terrifier l'Église chrétienne du haut Moyen-Âge. Il lui apparaissait comme le plus dangereux de tous les animaux indigènes, et même comme une créature du diable. Non pas tant parce qu'il était doté d'une force prodigieuse et qu'aucune bête ne pouvait le vaincre, mais surtout parce qu'il ressemblait étrangement à l'homme, au point qu'on lui prêtait des comportements humains, et aussi parce qu'il était par excellence l'animal des traditions orales, des croyances incontrôlables, des superstitions les plus difficiles à éradiquer. Donc voilà plusieurs raisons pour lesquelles l'Église a fait la chasse à l'ours. Donc autant sur le plan... tant sur le plan symbolique que dans la vie réelle où il a été pourchassé. Donc on lui prêtait les attributs du diable, on lui prêtait aussi c'est quand même l'animal qui ressemble le plus à l'homme, en fait, puisqu'il arrive à marcher sur deux pattes. Bon, il a des bras, des jambes. C'est un des rares animaux, un des rares fauves qui attaque avec ses pattes au lieu d'attaquer avec la gueule. Donc on lui prête aussi donc sa propension à kidnapper des jeunes filles et les emmener faire des choses avec. Voilà.
Sur béton, on parle pas de ça.
Non, 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 on reste chasse. Et donc voilà, donc l'Église va mettre tout en œuvre pour éradiquer la figure de l'ours en tant que animal roi des animaux. Donc elle va servir des hagiographies des saints. Donc il y a plusieurs saints dont on raconte l'histoire, qu'ils ont apprivoisé des ours, donc pour montrer que la foi est plus forte que voilà que
le que, évangéliser que,
voilà,
les ours aussi, ouais.
Voilà, la foi est plus forte que le plus fort des animaux. Voilà. Donc il y a notamment Saint Colomban, un évangéliste irlandais, et puis c'est notre bon Saint Martin à qui il arrivait la même chose. Voilà, il a réussi
à mater
un ours, voilà, de sa propre volonté, notamment divine.
Mais Pastoureau est pas très optimiste sur ce qui arrivera aux ours à la fin.
Ah bah non, parce que du coup, donc comme l'ours est destitué, l'Église le remplace par le lion, qui lui apparaît dans les Écritures, etc. Et comme c'est un animal beaucoup plus lointain et moins connu et presque légendaire, et a une image beaucoup plus facile à contrôler. Voilà.
Bien, donc c'est à quel
alors il s'agit de donc l'ours histoire d'un roi déchu de Michel Pastoureau, c'est aux éditions Point, c'est chez Le Seuil je crois ça.
Merci Barbouille. On n'a pas t'as pas de micro.
Alors
de...
oui,
c'est l'emblème de Berlin.
Oui, c'est l'emblème de Berlin et de Berne.
Ah.
Et oui, bah oui. Et de Berne en Suisse.
Merci,
c'est
merci.
C'est vrai, Jimmy, j'ai oublié de le dire. Ouais.
Alors Véronique, on va pas parler d'ours là, on va passer à un animal beaucoup plus petit. Mais moi j'en ai déjà mangé, en tout cas j'ai jamais mangé d'ours, mais.
Et beaucoup moins important aussi dans le roman, parce que là on est vraiment sur un roman, d'accord. Il y a un lapin sur la couverture et le lapin va envahir tout le village dans lequel l'histoire va se dérouler. Ceci dit, c'est pas un livre sur les lapins, très loin de là. Donc là. Le lien était sympa, mais ça va pas plus loin.
Je fais ce que je peux. Hein.
Ouais. Alors en fait, pourquoi j'ai choisi ce roman? Ça fait partie vraiment de mes livres, de ma bibliothèque personnelle de toujours.
Dites le nom du roman.
Oui, pardon. Alors donc, je vais vous parler donc de La Lumière de Torny Lindgren, qui vient de rentrer dans le fond de la médiathèque. Donc on a acheté trois titres de Torny Lindgren, Bethsabée, La Lumière et puis Le Chemin du Serpent. Torny Lindgren, c'est un auteur suédois qui s'est fait connaître un peu dans le monde entier avec la publication du Chemin du Serpent dans les années 80. Il est auteur d'une vingtaine de romans à peu près, traduits dans une trentaine de langues. Et puis il est membre de l'Académie suédoise depuis maintenant 23 ans, donc c'est un auteur qui rentre maintenant dans les classiques. Il a reçu de nombreux prix, et notamment le prix Femina pour Bethsabée, dont je dirai juste deux mots à la fin de la présentation de La Lumière. Alors La Lumière, c'est l'histoire de Jasper, qui va quitter son village de Cadiz, dans le nord de la Suède, pour aller chercher sa femme. Il a une idée très très précise de sa femme, il sait exactement à quoi elle ressemble, il sait aussi que, quel que soit son prénom, de toute façon il l'appellera Maria, c'est décidé. Et donc il part à pied, et puis avec ses quelques affaires, et il va jusqu'à la grande ville qui est pas trop loin de chez lui, qui s'appelle Nordingra. Et puis il va chercher, mais malheureusement, il va rentrer bredouille, pas tout à fait, parce qu'en fait, il va revenir avec une lapine. Et je vous demande, comment va-t-il l'appeler? Ben, il va l'appeler Maria. Voilà.
Ouais. Donc, c'est un féministe, quoi.
Un grand féministe d'avant-garde. Et donc, malheureusement, cette lapine est porteuse de nombreux petits. Donc ça, c'est pour le bon côté du lapin, n'est-ce pas? Très reproducteur. Mais aussi porteuse de la grande maladie, de la peste. Et en fait, cette lapine va décimer pratiquement la totalité du village, à l'exception de 6 personnes qui vont rester vivantes et qui vont explorer les bas-fonds de la nature humaine. À partir de là, tout va mal tourner. Les personnages vont s'approprier des héritages qui ne leur viennent pas, vont pratiquer luxure, inceste et tout, et j'en passe. Ils vont même s'arranger pour contaminer certains visiteurs en leur racontant que tout le monde est parti pour aller à chasser le castor et que c'est normal que toutes les maisons soient vides. Et donc ils lui proposent de faire une sieste dans un lit d'une personne qui avait contracté la peste. Et donc il le fait se promener comme ça à travers tout le village pour qu'il soit bien sûr qu'il attrape la peste, parce qu'il se trouve que ce type a plein d'argent. Donc voilà comment dépouiller une personne assez facilement. Donc on les voit se vautrer dans tous les plus bas les plus basses pulsions humaines. Et puis on voit un village en fait qui est privé d'autorité, que ce soit morale, religieuse, judiciaire, et donc voilà, tout va à volo. Et en même temps, les personnages le regrettent, parce qu'ils disent quand même on a plus de limites, mais jusqu'où va-t-on être capable d'aller? Donc on peut lire par exemple en page 239, « Si personne ne nous juge, nous, et tout ce qui s'est passé avant nous, alors nous allons nous enfoncer de plus en plus profondément dans l'absurdité et la perdition. » Donc voilà, on arrive très loin. Et alors La Lumière, c'est une sorte de conte philosophique qui est cruel, violent, mais aussi très poétique, hein, puisque j'ai oublié de vous le dire, mais Torny Lindgren est également poète. Moi, je l'ai trouvé pas dénué d'un certain humour, quand même, ne serait-ce que cette idée d'appeler la lapine Maria, comme il aurait appelé sa femme, je trouve ça assez drôle. C'est un texte qui a une apparence limpide, c'est une écriture très fluide, très facile d'abord, et pourtant qui aborde des thèmes qui sont très graves, puisqu'on va, on va parler de justice, de folie, de la petitesse de l'homme face à la puissance de la nature. L'homme est une puce face à la grande maladie. C'est par les puces de la lapine, en fait, que la peste va se répandre. L'orgueil, le bien, le mal, enfin, des sujets très profonds. Alors le style très épuré et apparemment comme ça, qui semble très simple, moi je trouve une écriture qu'on retrouve souvent chez les auteurs du Nord. Ça fait beaucoup penser aux contes ou aux textes bibliques. Il n'y a aucun marqueur temporel, donc on ne sait pas, ça pourrait se passer un peu n'importe quand. On voit que c'est un temps révolu, mais qui pourtant n'est pas daté. Il y a une forte dimension religieuse dans les textes de Thorny Lindgren. Il s'est converti au catholicisme dans les années 80, donc je pense que c'est quelque chose qui doit certainement être très important pour lui. Et on retrouve ce trait-là à travers ces différents textes. Il parle souvent de Dieu. Dans Bethsabée, donc l'autre titre qu'on a acquis, c'est l'histoire de la rencontre du roi David et de Bethsabée. C'est un texte magnifique et c'est une grande histoire d'amour. Je me rappelle en passant comme ça qu'un de mes professeurs, quand je devais être en classe de quatrième, nous disait que le plus grand livre pornographique du monde pour lui c'était la Bible. Bon voilà, alors là c'est vraiment une très belle histoire d'amour. C'est aussi un très bon conteur. Donc on démarre le livre et on rentre tout de suite dans l'histoire. Alors je vais vous raconter le début comme ça, ça vous donnera peut-être envie de le continuer. L'automne était déjà bien avancé lorsque Jaspar apporta la maladie à Cadis. Jusqu'à Nordingra, il avait marché pour se chercher une femme, mais n'en avait point trouvé. Il la voulait les yeux rapprochés, et que son nez fût haut et mince à la racine, que ses jambes fussent un tantinet cagneuse et qu'elle portât une envie sur la joue droite et les incisives légèrement écartées. Et quel que fût son nom de baptême, il l'appellerait Maria. Il la chercha durant 3 jours, la décrivant minutieusement à tous. Mais personne ne voulait admettre qu'elle existât. Puis ses provisions prirent fin. Il avait apporté du pain d'orge et du boudin noir, et d'érave fraîche dans sa haute d'écorce de bouleau jetée sur son épaule. Il refusait de mendier. Si la femme qu'il cherchait existait, elle l'aurait méprisé en apprenant qu'il mendiait son pain. Alors il reprit le chemin par lequel il était venu. Il dormit sous un sapin au pied d'une montagne qui ne possédait pas encore de nom. Il pleura jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. Il pleura la femme qui n'existait pas, autant que si elle était morte plutôt que de ne pas exister. Toute sa vie, il avait été persuadé qu'elle existait. Il avait cru en elle autant qu'en Dieu. Plus tard, pourtant, il acheta une lapine pleine. Cela se passait à Hume, une grosse lapine avec des touffes de poils noirs sur les oreilles et une croix de taches grises sur le dos. Il ne voulait quand même pas rentrer les mains vides. Il paya avec une boucle en cuivre qu'Ivar, le forgeron de Cadis, lui avait forgée. Et il disposa pour elle une couche d'herbe au fond de sa hotte et la nourrit avec des feuilles d'angélique. Lorsqu'il arriva à Cadis, il descendit à la rigole devant la chapelle. Il avait promis de montrer la femme à tous ceux qui voudraient la voir, et les autres célibataires, sans parler des enfants, s'y rassemblèrent sans tarder. « Elle n'existe pas, Nordingra, dit-il. Elle n'a jamais existé. » Alors elle n'était qu'un mensonge que tu avais inventé, dit l'un des célibataires. Pour moi, elle existait, dit Jaspar, et elle habitait à Nordingra. On n'a jamais rien vu se passer comme ça, que ce qui existe pour l'un n'existe pas pour tous les autres. Voilà.
Donc, c'est le début de
La Lumière de Thorny Lindgren.
Qui est paru chez Babel.
Chez Babel, donc éditeur cousin de Gaïa, hein, dans lequel... Tu avais présenté Imaka, c'est ça? Voilà, Imaka tout à l'heure.
Merci. On va faire une courte pause musicale et on reviendra parler avec Marie et Véronique d'une revue et d'un dernier livre. Et on donnera la parole au public si le public veut s'exprimer. On écoute La Rumeur.
Comment j'écris? avec un stylo, une feuille, la sono distille son bruit. Un putain de son avec lequel je veux rester seul. Et dans un style réfléchi, c'est pas le genre de rap qu'ils veulent. Un rince-gueule qui t'arrache, une tache dans ton paysage musical qui écorche les oreilles de tes patriarches. Parce que j'écris et que ça reste, je conteste le fait que nos ancêtres n'aient pas écrit leur propre texte. Parce qu'on y a cru et leurs écrits influent, vu que les seuls témoignages sont ces feuilles couleur écrue. Y a des pages et des pages qui se bousculent, un vrai potage. Y a du vrai, y a du faux, et tout un tas de calculs. Tout ce qu'on sait est peut-être fictif, vu qu'on tend à nous laisser dans l'approximatif. Un trou dans mon histoire, un flou dans ma mémoire, et dans les bouquins toujours les mêmes couverts de gloire. Alors sur quoi on se fonde? Sur des trésors, sur des tombes pillées. Dire que chaque seconde passée nous endort. Comment savoir qui a tort, qui a raison, vu que les discours changent comme les saisons. Parce qu'ils l'ont dit écrit, maintenant faut le faire. Les soi-disant sectaires iront se faire voir ailleurs, en attendant le meilleur, contredisant les ordres et les écrits du Seigneur. Les soi-disant dans l'erreur. Je pose dur, je rature du papier. Si je frôle la censure, c'est pour mieux être écouté. Tu le sais, les écrits restent, les mots s'envolent, je le sais. J'en fais un test et fous du lest dans mes paroles. Je pose dur, je rature du papier. Si je frôle la censure, c'est pour mieux être écouté. Tu le sais, les écrits restent, les mots s'envolent, je le sais. J'en fais un test et fous du lest dans mes paroles. Je pose dur, je rature du papier. Si je frôle la censure, c'est pour mieux être écouté. Et c'est sur la feuille blanche que je m'interroge, refoulant mes idées, belles et moches. Il faut que je me mange, alors je fais couler l'encre. T'as vu comment les soi-disant cancres manient les mots pour combler là où ça manque. Ici, c'est pas le fort à la mot, mais j'attaque fort et dans le désordre. Y'a pas que moi, y'a toute la horde, alors on tombera pas dans le panneau, dans le piège tendu par leurs intellos. D'abord, leurs promesses tombent à l'eau. Et qui, comme moi, n'y croit plus depuis bien longtemps? Avoir un toit sur la tête, c'est pas toujours évident. Maintenant, je veux la lumière sur leur noirceur. Jette-moi la première pierre si tu penses que je suis dans l'erreur. La rumeur reproduit le schéma, le flou, c'est pas du cinéma, comme les élections pour un septennat. Et dans la cistana, aux questions qu'on se pose, aux réflexions sous forme de prose, et à juste cause, on se posera sur un stru, on grattera la sécu, les allocs, et sans baisser son froc pour un statut. C'est tout vu, comme dit Mourad, on veut du rap, le pavillon, le cap qui va avec. Et en cette fin de siècle, ramener au effort nos sales gueules de mes decks. Ouais mec, pour ça, je pose dur, rature du papier. Si je frôle la censure, c'est pour mieux être écouté. Tu le sais, les écrits restent, les mots s'envolent, je le sais. J'en fais un test et du lest dans mes paroles. Je pose dur, je rature du papier. Si je frôle la censure, c'est pour mieux être écouté. Tu le sais, les écrits restent, les mots s'envolent, je le sais. J'en fais un test et fous du lest dans mes paroles. Je pose dur, je rature du papier. Si je frôle la censure, c'est pour mieux être écouté. Tu le sais, les écrits restent, les mots s'envolent, je le sais. J'en fais un test et fous du lest dans mes paroles. Je pose dur, je rature du papier. Si je frôle la censure, c'est pour mieux être écouté. Tu le sais, les écrits restent, les mots s'envolent, je le sais. J'en fais un test. T'es fou du lest dans mes paroles.
C'est la suite et la fin de cette émission spéciale des Poches sous les yeux en direct de la médiathèque de La Riche. Et on revient parler avec Marie d'une revue. C'est pas du poche là, c'est quoi?
Alors, là j'ai fait, c'est vrai, une entorse, mais c'est une revue de poche, parce que je vais vous montrer un exemplaire, c'est format A6.
À la radio ça va pas être facile, ah oui c'est petit.
Oui bah pour
c'est
ceux
un
qui
petit
sont
poche,
là,
alors,
désolé,
hein.
Donc voilà, format A6 c'est Lille et c'est une revue un peu particulière, une revue qu'on dit alternative et qui...
Underground.
Voilà, et qui fait partie d'un des trésors, hein, on peut, n'ayons pas peur des mots, de la médiathèque, qui a été donné par Dominique Mureau. Alors Dominique Mureau, il a été imprimeur, il a été directeur de publication de plusieurs titres.
Il est à l'origine de béton aussi.
Et voilà, l'équipe du Petit Rouge de Touraine a pris... Enfin, la suite a poursuivi l'aventure, en tout cas, média alternatif à travers Radio Béton. Mmh.
Et donc cette revue, elle date de quand, alors?
Alors, Le Petit Rouge ou Lille?
Non, Lille.
Lille, elle date des années 70. Hein, c'est paru de 77 à 79, grosso modo. En sachant que là, on n'a pas la collection complète. Hein, voilà, c'est une revue qui est parue au Blanc-Mesnil. Donc c'était un mensuel Et c'est proche du fanzine, hein, en fait, puisque c'est un collectif, enfin une association d'amis et de passionnés de bande dessinée, de poésie, d'illustration, qui l'a animé et nourri pendant quelques années. Alors pour vous donner une idée de ce qu'est Lille, et puis plus largement la presse alternative, je vais vous lire un petit texte qu'ils avaient fait sur un numéro spécial, qui était un numéro spécial courrier des lecteurs. Voilà, alors ça s'appelle « Pourquoi Lille ?» Pour rêver, ce que les médias trop immédiats ne disent pas de nous, de chacun, chez soi, en soi. Lille, pour se sentir vivre à son rythme. Pour le plaisir de fabriquer quelque chose de pas compliqué et contente de bien faire. Pour communiquer enfin avec nos mots. Alors Lille, c'est, je cite toujours, hein, la vie telle que nous la sentons et la voyons d'abord, par le détail, pas toujours sans importance. Du moins nous y tendons, et ceci en mélangeant toutes les choses possibles, textes, dessins, articles, nouvelles, infos, communiqués, contes, etc. Lille, c'est comme une tranche de vie de ceux qui l'ont préparée et y ont collaboré. Alors c'était une petite équipe donc qui travaillait et qui finançait de manière coopérative chaque tirage. Et alors le fil d'Ariane, puisque en fait quand on regarde les numéros c'est assez éclectique, le fil d'Ariane c'est justement le format.
Et cette revue, donc on peut la retirer à la médiathèque ?
Alors non, la mettez à disposition, on ne la retire pas, on vient consulter à la médiathèque. Cette revue, c'en est une parmi les plus de 300 qu'on a, et ça représente plus de 3000 journaux. Donc c'est énorme, et c'est pas rangé dans les rayons de la médiathèque qui sont à disposition du public, c'est dans ce qu'on appelle notre magasin, un endroit sans lumière directe, qui conserve dans des conditions les plus favorables les documents.
Ça veut dire qu'il faut venir à l'accueil, dire je voudrais
consulter Lille, et puis le fond Mureau. Ce fond, donc c'est le mot fond, ça désigne une collection particulière. Mmh. Et vous pouvez vous en faire une idée en allant sur le site de la médiathèque. Dans les catalogues, il y a le catalogue du fond Mureau.
C'est-à-dire qu'il vous a donné un certain nombre de livres ou de revues comme ça ?
Voilà, en fait, Dominique Mureau a fait un don à la ville, d'abord à la ville de La Riche et plus particulièrement au service culturel, parce qu'il est larichois d'origine. Et ces journaux, il les a collectés par échange. Il envoyait à ses confrères de presse alternative l'exemplaire de son journal quand il sortait, et en retour il en recevait de toute la France, et il y a même des titres d'Allemagne, d'Italie, enfin, c'est plus anecdotique, mais voilà.
D'accord, merci. Dernier livre chroniqué par les chroniqueurs et par la bibliothèque là, cette fois-ci, c'est L'Aliéniste de Caleb Carr, donc un grand classique.
Ouais, effectivement, un grand classique, et que nous n'avions pas ou plus dans le fond de la bibliothèque, donc il revient. Alors moi j'avais pensé à une petite un petit passage pour faire le lien. Alors c'est vrai qu'après le fond Mureau, il faut s'accrocher parce que les liens sont difficiles à trouver. Mais bon, il y a toujours les vacances, le thème des vacances, hein, comme les titres que vous présentez tout à l'heure. Alors quand on pense poche, on pense souvent vacances parce que ça rentre facilement dans un sac. Et puis policier, donc évidemment. Alors effectivement, c'est un grand classique et je voulais pas rater ça parce que voilà, on a toujours besoin de découvrir, même si c'est très classique, de découvrir un bon bouquin. Donc Caleb Carr, en fait, il écrit cet aliéniste après avoir fait des études d'histoire, et ses premiers textes sont pas du tout du policier. Il commence par des articles et des essais sur la diplomatie et la stratégie, donc, comme quoi ça mène à tout. Et un premier roman, Le Diable Blanc, mais qui va rester plus inaperçu. Par contre, quand l'aliéniste est publié en 1995, c'est assez récent, hein, pour un déjà considéré comme classique. Oui. Il va tout de suite rencontrer son public et être récompensé par des grands prix de littérature policière. Et voilà, il va trouver sa place naturellement dans les maîtres du genre. Alors, l'aliéniste se déroule dans les bas-fonds de New York à la fin du XIXe siècle, avec un meurtrier qui va semer des corps atrocement mutilés de jeunes enfants, mais dans l'indifférence la plus totale des pouvoirs publics et de l'ensemble de la population. Alors, il se trouve qu'à l'époque, Theodore Roosevelt est préfet de police à New York et qu'il va quand même trouver ça scandaleux que personne ne se penche sur cette situation. Et il va demander de l'aide à deux de ses amis, un aliéniste, donc qui était le nom qui désignait à l'époque les psychanalystes, hein, les pionniers de la psychanalyse, qui s'appelle Laszlo Kressler, et puis un chroniqueur criminel, donc qui s'appelle John Schuller Moore, qui vont l'aider à résoudre l'enquête. Donc tout l'intérêt du roman, c'est que on va essayer de dresser le portrait psychologique du meurtrier pour voir ses motivations, pourquoi est-ce qu'il agit comme ça, quels sont son mode d'action, et de mieux le cerner pour arriver à percer son secret et finalement à le démasquer, évidemment. Alors, on est en 1896 et c'est l'occasion de faire une incursion dans la psychologie telle qu'elle se concevait au 19e siècle. Les portraits psychologiques des personnages sont d'une grande finesse. Et en dehors de cette enquête qui est très bien ficelée, très cinématographique d'ailleurs, je suis étonnée qu'il ne soit pas déjà adapté au cinéma parce que ça ferait un super thriller qui aurait sûrement un grand succès. J'imagine que les droits doivent être achetés déjà par un scénariste quelque part, ce n'est pas possible autrement. Il excelle, Caleb Carr, à recréer le New York de la fin de siècle. Ça, c'est vraiment un des grands atouts du roman. Et il fait un portrait magistral de la ville dans son passage à la modernité. On ne peut pas présenter l'aliéniste sans évoquer l'univers des Sherlock Holmes, de la figure de Jack l'Éventreur, enfin tous les bons classiques du policier. Un livre dont la dimension psychologique et historique en fait vraiment tout l'intérêt, parce que sur l'histoire, voilà, on a le criminel particulièrement pervers, les enquêteurs qui sont très malins et qui vont réussir à percer le secret. Donc voilà, tous les fils du classique sont là, mais l'intérêt psychologique et historique en font toute la saveur.
Jimmy.
Voilà. Oui, non, j'avais lu ce bouquin-là, puis ça m'a bien plu parce qu'on voyait toute la construction du New York moderne, quoi. Voilà. Il y a le pont de Brooklyn qui est en train de se construire ou qui vient juste de finir d'être construit. C'était vraiment très très bien. Il parle du quartier Hell's Kitchen. Enfin bon, tous ces quartiers-là que bon, on connaît de nom maintenant parce que forcément, voilà. Et c'est la naissance du New York contemporain, quoi.
Ouais.
Un très 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 bon bouquin pour l'été, ça c'est sûr que c'est à lire sur la plage, Odile, puisque tu veux des livres à lire sur la plage. Merci. Est-ce que dans le public il y a quelqu'un qui veut chroniquer un livre ou en tout cas conseiller un livre?
Oui, moi je voudrais parler de Enquête sur les normes. Alors, ce n'est pas un livre de poche, hein, désolé, mais c'est un livre qui parle des normes. On entend souvent parler des normes qui empêchent tous les projets, qui empêchent des projets de construction, de chauffage, des implantations de bâtiments publics, des installations sportives, des terrains disponibles ou pas, précautions anti-incendie, etc. Moi, j'ai eu envie d'avoir des explications détaillées. Et j'ai voulu essayer de...
Alors, juste pour dire, ça s'appelle Absurdité à la française et c'est, oui, Philippe Eliakim chez Robert Laffont.
Voilà. Et j'ai eu envie d'avoir des explications sur ces normes qui se mettent toujours en travers des projets, puisque ce sont des règles qui sont pensées pour améliorer la sécurité, le confort des usagers, l'économie d'énergie, etc. Souvent, ça prend la tournure de règles paralysantes. Et alors, je ne vais pas vous énumérer tous les cas où ça, où ça paralyse, mais à l'origine, l'auteur parle d'une catastrophe, l'incendie d'un dancing dans les années 70, où il y avait eu 146 morts. Le maire avait été inculpé. Et à la suite de ça, il y a eu d'autres maires qui ont été condamnés à la prison à la suite d'un incendie des thermes, etc. Donc, pour arrêter cette inculpation des édiles, en 96 et en 2000, le Parlement, il a été choqué par ces clouages au pilori des hommes politiques et ils ont voté une loi limitant la responsabilité des édiles. Le Parlement est aussi largement composé d'élus locaux. Donc voilà, maintenant il y a des normes très coûteuses. Ce n'est pas tout. Je pense que dans ce que je voudrais dire aussi, c'est que depuis le Grenelle de l'environnement, il y a le DREAL, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement, du logement, qui peuvent empêcher un grand nombre de projets. Ils peuvent agir sur la qualité de l'eau, la gestion des déchets, la préservation des forêts, les rejets industriels, l'espace urbain, la protection des espèces, l'effet de serre, les règles de construction, l'aménagement du littoral et les implantations d'usines. Vous avez compris, ça touche quasiment tous les domaines. Donc les gens qui veulent faire construire, qui ont un projet, souvent ils se voient opposer des normes. Bon, bien sûr, c'est tout à fait nécessaire de préserver l'état de la planète Terre, mais ce que l'auteur cite et dénonce, ce sont des exemples qui, au lieu de préserver la planète, mettent à mal les besoins vitaux. Il cite un exemple dans le Pas-de-Calais, une région qui était sinistrée par le chômage. Il y avait un fort taux de chômage et il y a une construction d'usine avec voie ferrée qui a été empêchée pour protéger deux espèces de batraciens et de plantes. Voilà, donc comparé au problème de chômage, on se demande si c'est un cas de force majeure.
Il faut quand même dire que l'auteur du livre, c'est le rédacteur en chef de Capital.
Voilà,
c'est un livre assez libéral quand même.
Pardon ?
C'est un livre plutôt libéral.
Oui. Non, il dénonce les...
Il dénonce les normes, oui. Mais
il dénonce les...
Très libéral, ce garçon.
Je ne sais pas, je ne regarde pas son émission, mais moi j'étais intéressée parce qu'il répondait justement à cette question des normes qui sont omniprésentes et qui... Il cite le cas aussi des ascenseurs. Des ascenseurs qui ont été mis aux normes à cause d'un accident dramatique. Mais c'est arrivé dans la circonscription d'un homme politique qui était dans la circonscription, Gilles de Robien. Il a donc fait moderniser tous les ascenseurs. Alors c'est à coup de milliards. Et quand on sait qu'il y a 4 ascensoristes qui se partagent le marché... Otis, Schindler, Kohn et ThyssenKrupp. Bon, ça va coûter très très cher à tous les copropriétaires. Et qui est-ce qu'on protège? Ce sont les hommes politiques et non la population, avec l'argent des contribuables.
Alors donc, ce livre-là, il est disponible à la bibliothèque ou
Non, je l'ai... Peut-être qu'il va sortir en poche, vu son succès. J'espère. Mais non, c'est... Non, c'est un livre.
S'il n'y a aucune norme qui l'empêche de sortir en poche.
C'est...
On ne sait pas.
Non, mais c'est un livre que je m'étais procuré tout simplement parce qu'il répondait à une question.
Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler d'un autre livre? Non. Eh ben ça sera la fin de cette émission spéciale des poches sous les yeux en direct de la médiathèque. On va remercier la médiathèque. Je vais laisser Odile remercier la médiathèque. C'est son boulot en fait. Et puis représenter des poches sous les yeux pour les auditeurs.
Oui, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Enfin, de toute façon, c'était votre partage de lecture, on vous a juste assisté. J'espère qu'on pourra renouveler l'opération peut-être par la suite. Et puis, pour les gens qui sont présents, mais après la fin de l'émission, je vous propose de vous présenter l'émission dont je suis rédactrice sur Radio Béton, qui s'appelle « Des poches sous les yeux ». Il s'agit de chroniques littéraires, de livres de poche. Et puis on va mettre un ordinateur à disposition de la médiathèque, ordinateur qui pointera sur le site « Des poches sous les yeux ». Comme ça, si vous n'écoutez pas Radio Béton en permanence, vous pourrez au moins écouter quand vous voulez les chroniques de livres de poche. Voilà.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci Odile. Merci Violette. Et à bientôt pour un autre direct, je ne sais pas quand, à moins que tu le saches toi déjà.
Sûrement la bourse disque au mois de novembre.
Ok.
Et oui, je viens de comprendre la question de Jimmy. On en est à plus de 630 chroniques maintenant. Voilà. Donc tout le monde peut trouver une merveille à lire.
Merci, merci beaucoup, encore.
Merci à Violette pour la technique.
On rend l'antenne à Béton. Ciao.
C'est combien ce linge? Prends-moi ça là.
Casse-feu. Une poche plastique?
Ah non.
Fiche pas transport en commun? Mais on va gripper à la barre. Les revues me glissent des mains. On va mal train des mares. Ou train des deux, train ma mare.
Oh, le train des mares. Oh, c'est relou, t'as vu les meufs, ouais.
Retrouvez cette chronique sur le site des poches sous les yeux.fr et sur radiobéton.com.